Marc Delcourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Global Bioénergie. Vous êtes à Lyon au Forum Odo, vous rencontrez des investisseurs. On va parler avec vous de biocarburants, d'isobutène. Qu'est-ce que vous leur dites sur les derniers mois de Global Bioénergie à ces investisseurs?
2018, une année bien difficile. Donc Global Bioenergy a perdu 60% de son cours de bourse. On n'est pas les seuls, hein, bien sûr. Donc les marchés ont été très secoués. Les premières victimes, ça a été les small caps. Nous, en plus, on a pris la baisse subite du prix du pétrole dans la dernière partie de l'année. Donc voilà, bah, ça fait un résultat assez catastrophique. Et puis voilà, donc on se prépare maintenant à 2019 qui sera sur le thème de la remontada. Donc à suivre, à voir.
Vous aviez dit, j'ai vu, écrit, que il y avait des, enfin, vous posiez des questions sur des investisseurs qui avaient pu shorter ou vendre le titre?
Alors on s'est posé la question effectivement, donc on a même regardé, parce que les shorts doivent être déclarés, donc on a regardé, bon, pas de traces d'investisseurs qui nous shortaient. En tout cas, il y a eu des épisodes un peu complexes en 2018 et on s'est retrouvé donc avec un peu pris dans la tourmente. Et aujourd'hui, on en est bien sorti, le cours a bien repris des couleurs depuis le début de l'année, là, plus 20% depuis le 1er janvier. Donc on va de l'avant et le but pour nous maintenant, ça va vraiment être de délivrer. Notre principal milestone, c'est l'émergence de notre projet de première usine. Donc maintenant, c'est vraiment le sujet qui est sur la table. On espérait clore un premier tour de financement fin 2018, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce qu'en fait, cette première usine, je suis parti, je vous dis plein de choses, vous ne m'avez pas posé de questions, mais je raconte l'histoire telle que je la vis. Donc en fait, cette première usine, on espérait clore un premier tour de financement en 2018 sur un projet où l'usine serait à trois quarts dans les carburants, un quart dans les produits cosmétiques. La chute du prix du pétrole à la fin de l'année a un peu déstabilisé tout ça. On avait mandaté une banque d'affaires pour rechercher des investisseurs infrastructures. On a des discussions en cours qui continuent. Mais ce projet, trois quarts biocarburant, un quart cosmétique, marche pas, fonctionne pas dans l'environnement actuel où le pétrole est vraiment très bas. Donc, ce qui s'est passé aussi de nouveau dans notre domaine, c'est que les perspectives de l'isobutène dans la cosmétique sont devenues bien plus importantes. En fait, dans la cosmétique, il y a une grande famille de produits qui s'appelle les silicones, qui sont le principal émollient. Donc les silicones, il y en a dans les shampoings, il y en a dans les crèmes, il y en a dans les produits pour enlever le maquillage, dans les mascaras, dans toute la cosmétique. C'est un produit qui sert à plein de choses, qui sert de solvant, qui sert de texturant, qui sert de plein de choses. Donc c'est un produit à très gros volume, plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Et notre produit, donc l'isobutène, on peut le transformer, si on les colle 3 par 3, ça fait une molécule, l'isododécane, qui lui aussi est un produit de la famille des émollients, qui existe aussi d'ailleurs dans la cosmétique à des volumes plus faibles. Et ce qui s'est passé en 2018, c'est que les silicones ont été interdites. En avril 2018, la loi européenne a été votée, les silicones vont sortir du marché à horizon février 2020 pour une partie des applications cosmétiques. Et donc ça fait que notre molécule, donc l'isododécane, l'isobutène qui est oligomérisé, se retrouve à avoir un marché qui est bien plus important. Et on a fait une sorte d'étude de marché, on a réussi à signer des lettres d'intention de plusieurs acteurs du domaine de la cosmétique pour un gros volume, 8 000 tonnes, qui émanent de grands acteurs qui représentent peut-être 25% du marché de la cosmétique. Donc il y a encore plein d'autres acteurs qu'on n'a pas encore, avec qui on n'a pas encore pu traiter. Et ça dit que cette première usine, elle pourrait en fait fonctionner uniquement sur les produits cosmétiques, ou essentiellement, peut-être 75%. Et dans ce cas-là, comme les prix sont bien plus hauts, les lettres d'intention qu'on a signées parlent de 4 à 10 euros le kilo, ce qui est 2 à 5 fois plus cher que dans les carburants. Donc si cette usine voyait le jour sur cette application cosmétique principalement, le taux de retour sur investissement, le TRI, serait très élevé. Aujourd'hui, on a parlé dans un communiqué de 18%, mais en fait, ça pourrait aller bien au-delà, 30%, voire 40%, selon les hypothèses qu'on prend. Et ce projet-là, donc ce serait le projet le plus profitable de tout le domaine de la chimie. Donc en fait, on se retrouve avec une usine qui a d'un côté du risque, Le risque, c'est première usine de sa force of its kind, première de sa nature. Et puis aussi un projet qui est toujours un peu en amont vu d'un angle industriel, puisque on est au démonstrateur, mais on n'est pas encore aux performances finales. On a bien avancé, on est à 87% du rendement. La productivité et la stabilité ont avancé, mais on n'est pas au père final. Donc, on a encore un risque technologique qui est certain quand on regarde avec des yeux d'industriel, mais il est balancé par le fait que cette usine a les promesses de faire beaucoup, d'avoir une profitabilité immense dans un domaine qui est vraiment prêt à valoriser les produits qui sont renouvelables, qui diminuent l'impact CO2, qui ne sont pas basés sur du pétrole et qui cochent les cases de la transition énergétique et environnementale.
Donc le focus pour vous, c'est vraiment de trouver ces partenaires. Donc c'est ce que vous faites, j'imagine, tous les jours, de trouver ces partenaires pour que ce projet-là, avec son nouveau profil que vous venez de décrire, puisse aller au bout.
Exactement. Donc là, on est en train de réorganiser un peu ce projet d'usine, de réécrire le projet de 25-75, donc 25% dans la cosmétique, 75% dans les carburants, ça passe à 75-25. Ça a des implications en termes d'ingénierie, en termes d'organisation, en termes de marché. Et donc on est en train de réorganiser tout ça. On poursuit les discussions avec les investisseurs infrastructures avec lesquels on discute dans le cadre de cette levée de fonds, d'une première tranche pour IBN One. Et on espère bien clore ce tour de table, donc qui tarde un peu, on l'avait prévu pour fin 2018, on espère bien pouvoir le clore dans le premier semestre 2019.
Alors il y a eu une bonne nouvelle dans la partie biocarburant tout de même, c'est ce qu'on appelle les taux de densité qu'on va pouvoir mettre effectivement dans l'essence, donc de l'éthanol. Donc on augmente un peu, alors on est très loin de la Finlande, 40%, mais ça avance, ça c'est un petit plus quand même.
Alors oui, c'est un plus très important. Donc en fait, la loi de finances qui vient d'être votée par la France dit deux choses. Dit que les biocarburants vont continuer à augmenter fortement dans les essences et dans le diesel. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne parlent que de la voiture électrique qui reste très faible en termes de marché. Et la réalité, c'est que l'essentiel de la transition énergétique, elle est aujourd'hui portée par les biocarburants. On va continuer d'incorporer des biocarburants et plus on en incorporera, plus on va avoir besoin de biocarburants avancés. L'éthanol, on peut l'incorporer dans une certaine limite, mais au-delà de cette limite, il faut soit des moteurs spéciaux, soit, si on veut garder un moteur normal, une voiture normale, avoir un carburant qui n'est pas de l'éthanol, qui est de l'hydrocarbure, de la vraie essence. Donc nous, ça nous ouvre une perspective très importante. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le gouvernement donc, a reconnu que les sous-produits de la betterave, donc les résidus de la betterave, sont éligibles aux avantages fiscaux. Donc ça, c'est important parce que nous, notre première usine, elle va justement fonctionner sur ces résidus de betterave. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut noter aussi, c'est qu'on voit une espèce d'effervescence, non seulement sur les carburants routiers, mais sur les biocarburants routiers, mais aussi sur les biocarburants aériens. Donc, toute l'Europe en parle. Aujourd'hui, on se dit, comment ça se fait que l'aérien, qui est le segment qui croît le plus, 5% et même 6,1% de croissance à l'échelle mondiale en 2018, comment ça se fait que l'aérien n'ait ni taxe ni obligation d'incorporation de biocarburant? Donc c'est un peu un régime spécial qui va être amené à être modifié, et on voit déjà un premier pays, la Norvège, dire: à partir de maintenant, 2020, je vais mettre un premier mandat, c'est le premier mandat à l'échelle mondiale, de biocarburant dans l'aérien. 0,5% en 2020. Toute l'Europe va probablement s'y mettre le moment venu. Et la trajectoire, c'est qu'à horizon 2030, ce soit plus 0,5%, mais plutôt 5%, c'est-à-dire que l'aérien rejoigne le routier. Et donc cette transition vers le plus renouvelable dans le routier et dans l'aérien, elle continue sa marche en avant, année après année. Et c'est important de voir que c'est l'Europe, et la France en particulier, qui fait le travail de leader. Donc la COP21, où la France avait dit le leader de la transition énergétique, ce sera nous. Ce n'était pas dit comme ça, mais ça voulait un peu dire ça. Ça se traduit dans les faits. Et ça, je pense que c'est important et on peut saluer l'action du gouvernement sur ce sujet.
Le mot de la fin rapidement sur le financement, il est assuré pour vous encore ou est-ce qu'il fera affaire de trouver d'autres financements?
Alors, on vient de lever des fonds. Donc, on a levé des fonds en septembre 2018. Donc, aujourd'hui, on est bien financé. Mais un jour, Global Bioenergy aura probablement besoin de relever des fonds. Et donc, on n'exclut aucune possibilité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin à court terme.
Merci Marc Delcourt d'avoir fait le point avec nous.
Merci.